Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdiwa pour l'interview émission que vous pouvez écouter sur le site internet www.rdwa.fr, émission en podcast donc, et aussi sur les ondes FM en 107.5 comme vous le faites actuellement. Aujourd'hui, nous recevons Clémence Lataste. Bonjour.
Bonjour.
Alors Clémence, un petit retour d'après l'été, donc pour nous présenter la saison à venir automnale, donc de plusieurs propositions de stage ou d'ateliers ou de, comment pourrait-on dire, de formation aussi.
Ouais, tout à fait.
Voilà, pour la saison jusqu'à novembre donc. Et puis on va commencer aussi pour un petit bilan de ce que vous aviez proposé de mars à juillet de cette année. Voilà, qu'en est-il donc ?
Alors, ce que je propose, en fait, pour moi, le sens profond de ça, c'est d'essayer de faire en sorte que les personnes puissent se connaître mieux pour arriver ensuite à interagir de manière plus constructive les unes avec les autres. Et donc ça s'applique autant dans la famille que dans le couple, que au travail, dans les associations, enfin voilà, dans tous les lieux où en fait on va être en interaction les uns avec les autres. Voilà, pour moi le sens vraiment de tout ça, c'est d'amener plus de conscience, plus de choix et plus de paix dans ce qu'on vit au quotidien. Voilà, donc ça s'applique dans tous nos domaines de vie.
Alors, pour ça, vous proposez différentes formations au nombre de 4, avec des ateliers, des stages. Alors, on va passer dans le détail de ces propositions, à commencer par un cycle d'ateliers, donc, qui commenceront quand ?
Alors, le cycle d'ateliers, là, pour l'automne, il va commencer le 13 septembre. Ça va être à l'école de Vérone, l'école Montessori. Voilà, donc il démarre sur 8 ateliers. Entre septembre et novembre. Voilà, donc c'est ouvert aux personnes qui ont envie de découvrir un processus donc basé sur la communication non violente qui permet donc d'atteindre un peu tous les objectifs dont je parlais tout à l'heure.
Et donc un public, c'est-à-dire pour adultes
Voilà, c'est une formation pour adultes. Donc la dernière session a été plutôt orientée par rapport aux parents de l'école et aux éducateurs ou éducatrices de l'école. Et donc il y aura encore des parents et éducatrices, et puis il y aura aussi toute autre personne, comme la dernière fois, qui a envie de rejoindre le groupe, qui est bienvenue dans ce cadre-là. Donc le cycle d'atelier, il est un petit peu orienté autour de la relation avec les enfants, mais il est généralement en fait destiné à toutes les personnes qui ont envie de découvrir la communication non violente.
Ça se passe à Vérone, à l'école Montessori,
voilà,
c'est ça ?
Voilà, dans le dôme de l'école. Tout à fait.
Et au niveau du DIWA, vous avez d'autres choses à venir aussi ?
Oui.
Par rapport à cette démarche particulière autour de l'enfant, par exemple ?
Non, particulièrement autour de la relation avec les enfants, pas spécialement. Par contre, il y a plusieurs choses que je vais proposer. Donc, il y a des ateliers de découverte qui sont à créer à l'usine vivante. Voilà, il y aura aussi... une formation avec l'école de naturopathie Naturellis qui va être en octobre et novembre sur 2 week-ends. Voilà, donc ça c'est en gros ce qui va se passer dans le coin.
D'accord.
Et puis j'anime aussi le week-end prochain vers Saint-Étienne un stage destiné aux personnes qui ont déjà un petit peu abordé la communication violente et qui veulent approfondir.
Alors, dans ces ateliers que vous proposez à Vérone, quelle en sera la teneur ? On peut un peu détailler un peu les outils qui seront utilisés ?
Oui. Donc l'idée, ça va être d'abord de regarder un petit peu qu'est-ce qui freine la communication, qu'est-ce qui entrave en fait notre manière de communiquer les uns avec les autres. Et on va explorer en fait différentes manières d'interagir les uns avec les autres, qui sont des habitudes, qui sont issues de notre éducation et dont on ne se rend plus forcément compte et qui vont amener un petit peu de difficulté à interagir parce que ça va pouvoir créer des interprétations ou moi-même interpréter ce que l'autre va me dire. Et donc à partir de là, je vais me créer des films qui vont faire que je suis plus en lien avec la réalité de ce que l'autre vit et de ce que je vis. Donc on va déjà explorer ça, premièrement, qu'est-ce qui freine. Et ensuite, on va essayer d'aller au-delà de ça. Donc au-delà, par exemple, des jugements, des interprétations. Essayer de se rendre compte qu'est-ce qu'il y a derrière ça, en fait. Et en général, derrière des jugements, il y a souvent une émotion et un besoin qui essaye d'être exprimé d'une manière un petit peu maladroite, parce que c'est sous forme d'un jugement. Donc souvent, je dis, c'est comme si on allait regarder un cadeau qui a un paquet qui ne donne pas vraiment envie et qu'on va essayer de l'ouvrir et d'aller voir quel est le cadeau vraiment derrière, en fait. Voilà. Et donc, on va apprendre à identifier nos émotions, identifier nos besoins. Donc, c'est-à-dire, une émotion, en fait, elle parle de quelque chose qui est très important en moi et on va essayer d'aller déchiffrer, traduire tout ça pour de plus en plus s'habituer à arriver à le traduire de manière plus rapide dans le quotidien et pouvoir, avant même que ce jugement il sorte de notre bouche, arriver à comprendre qu'est-ce qu'il veut dire au fond et puis dire en fait le fond du message et offrir le cadeau directement, quoi. Voilà.
Est-ce que le mot est un outil important dans ces cycles ? Est-ce qu'un mot, par exemple, pour 8 personnes présentes, va signifier 8 choses différentes ?
Je pense que oui, parce que pas forcément 8 choses différentes, mais en tout cas, c'est clair que, par exemple, un jugement, dire à quelqu'un, je sais pas moi, t'es flemmard. En fonction de comment la personne elle est à ce moment-là, est-ce que c'est quelque chose qui la touche particulièrement parce que elle est, je sais pas, elle-même elle se juge sur ça ou pas ? Eh bien ça va clairement influencer en fait comment la personne va recevoir ce mot. Donc en effet, je pense que l'effet du mot va avoir un impact. Enfin, l'impact va être différent en fonction de la personne, en fonction du moment où elle est, des ressources qu'elle a à ce moment-là. Est-ce qu'elle est fatiguée ? Est-ce qu'elle est en pleine forme ? Est-ce qu'elle est joyeuse, triste ? Et donc ça, c'est clair que ça va avoir aussi une influence, clairement. Donc il y a un endroit dans la relation où c'est clair que moi, je ne maîtrise pas aussi ce que l'autre va recevoir. Donc évidemment, quand je donne un jugement à une personne, je peux imaginer que l'effet ne soit pas très agréable pour elle et en retour pour moi. Mais après, je peux essayer de choisir les meilleurs mots possibles, en tout cas les mots qui vont être les plus doux ou objectifs ou neutres possibles. Mais en fait, la personne, en fonction de son état, elle va le recevoir comme elle peut. Et ça, c'est quelque chose que je ne peux pas maîtriser. Et souvent, les personnes me disent, mais du coup, est-ce que ça demande à ce que les deux soient conscients et soient un peu dans ce mode de communication violente ? C'est clair que ça aide. Et en même temps, des fois, c'est le vivant. Donc, on ne peut pas prévoir, en fait. On peut faire de notre mieux, mais après, on ne maîtrise pas les conséquences, quoi.
Donc c'est un cycle de 8 ateliers que vous proposez donc à Vérone, dans l'école Montessori. Est-ce qu'on peut préciser un des ateliers, comment ça se déroule avec le public présent ?
Oui, l'atelier en général, il dure 2h30. Donc on va souvent démarrer l'atelier par un tour de météo, c'est-à-dire comment chacun se sent pour essayer juste de s'entraîner à être en lien avec son ressenti, voilà, parce que moi je remarque qu'il peut y avoir un réflexe qui est de mettre de côté le ressenti parce que ça prend trop de place et ça nous empêche de vivre le reste. Or pour moi c'est aussi un outil de connaissance de soi, donc on va commencer toujours les ateliers par ce temps de météo, c'est-à-dire voilà, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Aussi dans l'idée d'accueillir chacun avec ce qu'il vit en fait. Et des fois il y a des personnes qui arrivent qui sont fatiguées, d'autres qui sont pleines de joie, pleines d'énergie, d'autres qui viennent de se disputer avec quelqu'un, donc qui sont dans un état particulier. Et ça permet aussi de comprendre un peu peut-être les réactions de chacun. Et ensuite on va commencer chaque atelier par un temps de célébration, j'appelle ça un temps de célébration, c'est-à-dire qu'on va essayer de se rappeler dans notre quotidien qu'est-ce qui a été joyeux en fait. Et pour moi c'est aussi un entraînement. Parce que je vois que je peux avoir une tendance à focaliser mon attention sur tout ce qui ne va pas, sur tout ce qui me satisfait pas, me convient pas dans ma vie. Et ça, je sais très bien le faire. Donc, j'essaye d'entraîner mon cerveau à aussi focaliser sur qu'est-ce qui me fait du bien. Voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle la célébration de la gratitude ou de ce qui est joyeux, agréable. Et ensuite, l'atelier va se dérouler souvent... Ouais, à peu près de la même manière. En général, on va avoir soit un temps à deux au démarrage de pratique sur ce qu'on aura vu la dernière fois. Et puis ensuite, il va y avoir un apport théorique sur une nouvelle notion, parce que l'idée, c'est que ce cycle soit ouvert à toute personne, donc débutante. Donc moi, je vais aussi apporter vraiment des choses de l'ordre de la connaissance, on va dire. Et ensuite, on va mettre en pratique ce que j'amène. Donc il va y avoir des temps souvent en binôme ou en trinôme, ensuite avec des retours en groupe pour savoir comment chacun l'a vécu et un peu qu'est-ce que ça a permis à chacun de vivre et d'apprendre. Et ensuite, on va terminer par un tour de clôture, voilà, donc un peu comme on a fait au démarrage, comment chacun se sent et avec quoi il repart de cet atelier.
Au début d'émission, je parlais, par exemple, de faire un bilan de ce qui a été proposé entre mars et juillet de cette année. On peut peut-être revenir rapidement et voir si, à partir de là, vous avez pu élaborer d'autres, peut-être, manières de travailler à la fonction de la demande d'un public.
Je vois que, par rapport à cette question précisément... En tout cas, ce que ça m'a permis de voir par rapport à tout ce qu'on a pu faire avec les différents cycles d'ateliers qui se sont passés donc au printemps dernier, c'est qu'en fait, le fait d'avoir cette régularité, ça permet vraiment aux personnes de régulièrement se remettre dans le bain et essayer de rester en lien. Parce que souvent, les personnes viennent découvrir une nouvelle démarche qui les enthousiasme. Et en fait... la vie reprend son cours, le quotidien, les choses, les habitudes. Et donc ces cycles d'ateliers, je vois qu'ils ont vraiment été, un soutien pour les personnes à intégrer ça dans leur vie. Et notamment les personnes qui ont suivi le cycle 2, donc qui avaient déjà suivi un premier cycle de 8 ateliers, puis donc un deuxième jusqu'à début juillet. Et j'ai vraiment vu en fait et entendu leur retour comme quoi ça avait vraiment contribué pour eux à ancrer petit à petit cette pratique, cette démarche dans leur vie. Voilà.
Le public qui vient vous voir donc et suivre vos formations, finalement sort avec une certaine autonomie de gestion de la parole, en fait.
Alors en fait, pour moi, ça dépend du niveau en fait et du temps de pratique. Par exemple, quand je parlais de ce cycle 2, oui, j'ai vraiment l'impression que les personnes, elles repartent avec des choses concrètes à mettre en œuvre dans leur quotidien. Et notamment, je dirais principalement en fait par rapport à eux-mêmes. Parce que ce que je propose, c'est d'abord une démarche qui va s'appliquer à soi, c'est-à-dire dans ma manière d'être en lien avec moi, parce que j'ai tout le temps en fait une communication avec moi-même en quelque sorte, j'ai tout le temps des pensées qui viennent et qui me disent certaines choses. Donc c'est comment je vais intégrer cette non-violence à l'intérieur de moi, et pour moi ça c'est vraiment la première étape. Et je vois que souvent je me surprends à vraiment me parler d'une manière qui est assez douloureuse en fait, et je réalise que si déjà j'ai pas intégré ça en moi, comment alors je peux le faire avec les autres. Donc je dirais que les personnes qui ressortent de ces cycles d'ateliers et de ces formations, pour moi c'est vraiment d'abord elles repartent dans leur valise avec un soutien pour elles-mêmes, pour leur relation avec elles-mêmes, et pour se comprendre et pour arriver à décoder tout ce qui peut se passer en fait, toute la vie qu'il y a là, toutes les émotions qui surgissent et tout ce qu'on vit au quotidien, et décoder ça et traduire ça. Et dans un deuxième temps, je dirais, ça peut du coup avoir une influence, avoir un écho avec les autres, mais c'est vraiment pas quelque chose pour moi qu'on va appliquer avec les autres. C'est plutôt quelque chose qui va se faire ressentir de par le changement qui s'opère à l'intérieur. Voilà.
Et nous allons donc aborder le deuxième stage qui se déroulera à Saint-Étienne. En quelle période ?
Alors celui-là, il est très rapproché là, c'est bientôt. C'est le week-end du 9-10 septembre. Et c'est pour un groupe qui a déjà une initiation à la communication non violente et qui a envie de continuer, d'approfondir. Donc dans ce stage, on va explorer principalement donc ce qu'on appelle l'auto-empathie. Donc c'est un peu ce que j'ai décrit précédemment en fait. C'est vraiment comment je décode ce qui se passe en moi. Et donc une pratique pour essayer d'intégrer ça. Et l'écoute empathique, donc c'est-à-dire ensuite comment je vais aussi traduire et entendre ce que l'autre me dit en fait en termes d'émotions et de besoins pour arriver à le rejoindre et à trouver un lien avec la personne en face de moi. Donc ça va être les deux thématiques de ce stage principalement. Donc pour les personnes qui sont déjà initiées à la communication non violente, peut-être ça va leur parler.
Ensuite, plus proche de nous, donc à l'espace socioculturel du Diwa.
Alors ça va démarrer en octobre et ça va être sur 5 journées. Donc 5 journées pas à la suite, hein, ça va être 5 journées en plusieurs fois. Donc c'est une formation à l'écoute bienveillante qui est principalement destinée aux bénévoles d'associations. Donc c'est une formation qui est financée par le SCDD et qui donc va être gratuite pour les bénévoles d'associations. Donc dans cette formation, on va aborder les bases de la communication non violente. Et puis ensuite, on va vraiment orienter sur l'écoute. Voilà, ça va être principalement sur l'écoute, et c'est-à-dire sur quand je suis bénévole d'association et que je suis en lien avec du public, comment je peux accueillir les personnes qui viennent vers moi, comment je peux écouter, comment je peux voir qu'est-ce qui résonne en moi. Si par exemple quelqu'un me parle d'une manière assez agressive ou m'insulte, qu'est-ce que je peux faire en fait? Quelles sont mes ressources? Voilà, donc c'est vraiment dans cette idée-là de chercher comment je peux être en relation avec du public quand je suis dans mon association, qu'est-ce que ça me fait à moi et comment je peux accueillir la personne et entendre ce qu'elle a à dire, peut-être traduire justement son message pour essayer de la rejoindre. Voilà.
Alors pour ça, je pense qu'il y aura une limitation de place.
Oui, ça va être limité. Alors pour le moment, on n'a pas défini un nombre encore très précis, mais j'imagine que ça va être autour de 12-15 personnes. Voilà.
Donc, on invite les auditeurs à peut-être réserver.
Voilà, ça
va, tout à fait. Est-ce qu'il y a un numéro pour ça?
Ils peuvent directement s'adresser à l'ESCDD. Et en fait, l'idée, ça va être vraiment que les personnes qui soient dans le groupe, le critère principal, on va dire, de sélection, parce qu'il n'y a pas de prérequis, mais le critère principal, ça va être que les personnes soient disponibles pour les 5 journées entières. Voilà, parce que c'est vraiment important que c'est un suivi, donc si les personnes ne sont pas là, c'est embêtant. Donc ça va être ça le principal critère, on va dire. Donc oui, j'invite toutes les personnes qui sont intéressées à se manifester auprès de l'ESCDD et à donner leur candidature.
Les stages à l'initiative de l'ESCDD, puisqu'ils proposent la formation par ses propres frais, est-ce qu'il y a une nécessité, selon lui, l'ESCDD, je parle, d'ateliers comme le vôtre pour pallier un petit peu les difficultés au sein de certaines associations?
Oui, vraiment, c'est venu de la part de Pascal Évieux qui m'a contactée en me disant qu'en fait, elle avait vraiment envie de soutenir les personnes dans les associations à avoir des ressources, à avoir des outils. Parce qu'en effet, ça pouvait être difficile à certains moments de recevoir du public et de ne pas savoir comment interagir, de ne pas savoir comment répondre en fait. Parce que des fois, il y a des personnes qui sont vraiment dans des situations difficiles, qui donc vont arriver avec tout un panel d'émotions et d'intensité. Et pour la personne qui accueille, des fois, c'est très difficile de savoir comment gérer ça, quoi faire avec tout ça. Donc en effet, c'était dans l'idée de soutenir vraiment ces bénévoles d'associations qui font de leur mieux et qui, en même temps, parfois, n'ont pas d'outils.
I wonder where we is memory remain, stuck in my bones and my brain. I try to make them burn, let them all fade away. Yet is memory remain, stuck in my bones and my brain. I try to make them burn, let them all fade away. Yet is memory remain, stuck in my bones and my brain. I try to make them burn, let them all fade away. Yet is memory remain, stuck in my bones and my brain.
Et puis, la dernière chose, ça sera le stage à Naturilis, où là, il y aura, je crois, une multitude de modules proposés, hein, en plus du vôtre.
Voilà, alors en fait, donc Naturilis, c'est, comme certains connaissent sûrement, une école de naturopathie qui propose une formation longue de naturopathie. Et à côté de cette formation longue, ils proposent également des stages courts complémentaires, donc qui peuvent être soit pour les naturopathes en formation, soit pour les naturopathes qui sont déjà formés, soit pour un public plus large, en fait, de personnes qui sont soit dans le domaine de la santé, soit dans le domaine de la communication, des relations humaines, domaine de l'éducation, et ouvert même à toute personne en fait qui a envie d'améliorer ses compétences relationnelles. Donc ce stage que je propose, cette formation, ça va se dérouler sur 2 fois 2 jours. Donc c'est une initiation basée toujours sur la communication non violente, qui va être orientée plus avec un côté un peu plus professionnel, parce que ça va être plus destiné à des personnes qui viennent dans le cadre de leur travail. Mais de toute façon, à chaque fois, on aborde un peu tout type de situation, parce que tout ce qu'on va explorer, tout ce qu'on va apprendre, ça va être possible de l'appliquer dans tous les domaines. Voilà.
Est-ce que vous pourriez définir ce qu'est la communication non violente ?
Oui. Alors la communication non violente, c'est une démarche, un processus, même un art de vivre qui a été modélisé par Marshall Rosenberg, qui était un psychologue américain. Quelque chose. Il disait souvent qu'il n'avait rien inventé, mais qu'en fait, il avait juste rassemblé des choses. Et donc, c'est issu de la psychologie humaniste. Donc, certains connaissent Carl Rogers, par exemple, qui est basé sur une approche qui est centrée sur la personne. Donc, c'est-à-dire qu'on va vraiment avoir cette hypothèse de base que tout le monde a les ressources, en fait, en soi pour trouver ses propres solutions. Dans tous les aléas de la vie. Et donc, la personne qui va l'accompagner va être juste un soutien à ce que la personne révèle ses ressources. Donc, ça veut dire que c'est une approche qui va être vraiment basée sur l'autonomisation et vraiment essayer de faire en sorte que chacun puisse se connaître et ne soit pas dépendant d'un thérapeute, d'un psychologue pour arriver à se sentir mieux dans sa vie, mais qu'il arrive à lui-même traduire et se comprendre pour trouver ses propres solutions. Voilà, donc la communication non violente, c'est basé sur ce postulat. Et ensuite, c'est une démarche, en fait, de clarification, je dirais. Donc, c'est-à-dire, comment je vais traduire ce que je disais au départ, les jugements que je peux émettre ou que je peux recevoir, en un panel de phases. C'est-à-dire qu'il va y avoir 4 phases, pour faire assez simple, qui va être qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, l'observation des faits dans la situation. Qu'est-ce que la personne, elle a dit ou fait ? Donc, c'est-à-dire une caméra qui filme et qui juste voit et entend ce qui se passe. Donc, dénuée de toute interprétation, de tout film. Ensuite, on va essayer de se demander, quand j'entends ça, comment je me sens ? Donc, c'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe en moi ? Et je vais vraiment mettre le focus sur moi, parce que souvent, je vais avoir tendance à accuser l'autre, que c'est de sa faute, que c'est lui qui, à cause de lui, je me sens comme ci ou comme ça. Là, je vais juste regarder ce que je vis moi et ensuite, à partir de ça, me demander qu'est-ce que ça dit de ce qui est important pour moi, en fait. Parce qu'il y a forcément un message là qui crie et qui dit « Eh, ça me va pas ». Donc, quel besoin est en jeu ? Et une fois que j'ai identifié mon besoin, qui peut être par exemple un besoin de reconnaissance, un besoin d'amour, un besoin de considération, voilà, il y en a une multitude. Et c'est vraiment à cet endroit-là qu'on peut se rejoindre, en fait, qu'on peut être en écho les uns avec les autres. Et une fois que j'ai identifié ce besoin, ben, je vais pouvoir avoir beaucoup plus de clarté sur qu'est-ce qui, là, maintenant, me permettrait de satisfaire ce besoin. Et donc, c'est à cet endroit-là, vraiment, c'est à cet endroit où je vais sentir ce qui se passe en moi que je vais pouvoir ensuite passer à l'action. Mais avant ça, avant d'avoir senti mon besoin, je ne vais pas pouvoir passer à l'action parce que je n'ai aucune idée de ce qu'il faut faire, en fait. C'est comme si, aujourd'hui, j'ai l'impression que dans la plupart des cas, on va voir qu'il y a un problème et on va essayer de trouver une solution directement. Là, on va essayer, avant de passer à la solution, de passer à l'étape de qu'est-ce qui est sur mesure pour moi. Parce que je ne sais pas si ça vous parle, mais des fois, il y a des gens qui vous disent « Ah, j'ai déjà vécu ça, alors dans ce cas-là, il faut faire ça, moi j'ai fait ça, ça a marché pour moi. » Alors, c'est vrai que des fois, ça peut être un soutien pour se donner des idées. Mais en tout cas, c'est vraiment essayer de se dire que chaque personne a sa propre solution sur mesure. Et qu'on va gagner du temps, en fait, en essayant de chercher la solution sur mesure plutôt que d'en essayer plein. Voilà, là j'ai un petit exemple qui me vient, c'est l'histoire d'une... C'était une maman qui disait qu'elle avait sa fille qui lui disait « Maman, j'ai froid ». Et alors, la maman était en train de faire plein de trucs, donc voilà, elle prenait pas beaucoup de temps, mais elle disait « Ok, ben, tiens, je t'amène un pull. » Et puis voilà, deux minutes après, la petite fille lui disait « Ben, j'ai encore froid, maman. » « Ok, ben tiens, je t'amène une couette. » Et puis elle repartait faire ses trucs. Et puis petit à petit, ben, voilà, la fille qui lui dit encore « Ben, j'ai froid, maman, encore. » « Ok, ben tiens, je t'amène un chocolat chaud. » Et puis, au bout d'un moment, la mère lui amène le chocolat chaud, puis elle lui dit « Mais maman, en fait, j'aimerais juste un câlin. » Et donc, en fait, si je prends le temps de vraiment écouter qu'est-ce qui se passe chez cette petite fille, au lieu de directement chercher une solution, bah, d'une, je vais gagner du temps, et puis en plus, je vais pouvoir trouver quelque chose qui lui permet de vraiment satisfaire son besoin, qui était en fait un besoin de chaleur humaine, mais pas de chaleur voilà, du corps. Donc j'aime bien ce petit exemple pour moi qui montre vraiment que parfois, on va se creuser la tête à chercher des solutions, alors qu'en fait, on n'est pas allé au fond du problème. On n'a pas regardé le fond, et donc tant qu'on n'a pas regardé le fond, on ne va pas pouvoir trouver quelque chose qui soit vraiment satisfaisant.
Qui au final ne prend pas plus de temps ?
Non, bah, en fait, au final, ça prend, je dirais, le même temps. Mais on peut avoir l'impression que c'est long parce qu'on n'est pas habitué à ce mode de fonctionnement. Voilà.
Alors, ça, pour Naturidis, au château Saint-Ferréol, je crois, hein, c'est ça ? Non, ou Romeyer ?
Oui, ça va être à Romeyer.
À la
voilà.
Bastide, hein, de
voilà,
Romeyer.
La Bastide de Romeyer.
Et c'est à quelle date, précisément ?
Alors, les dates, là, je ne les ai plus en tête précisément, mais on peut les retrouver sur ma page Facebook. Mais en gros, ça va être un week-end en octobre et un week-end en novembre.
Je pense que pour le SCDD, on n'avait pas cité de date précise.
Ben, les dates sont en train d'être calées, mais ça va être pareil entre octobre et novembre. Et vous pouvez les retrouver aussi sur soit le site de la CDD, je pense, et sur ma page Facebook également. Voilà.
Vous n'avez pas de site, toujours ?
J'ai un site internet, mais qui est principalement dédié à présenter les prestations qu'on propose. En fait, c'est un site qui s'appelle Équivalence Créative et qui donc est plus une sorte de catalogue de formations et de propositions d'accompagnement et de conférences. Et toutes les actualités de mes stages et formations sont sur la page Facebook. Voilà.
Vous travaillez aussi avec des entreprises ?
Oui, ça m'arrive de travailler avec des entreprises. Parfois ont voilà, besoin de soutien dans les équipes notamment. Là, principalement, j'ai travaillé avec des entreprises du domaine, on va dire, santé sociale. Donc souvent autour de l'éducation ou de l'enseignement. C'est souvent sous forme de formation ou d'accompagnement d'équipe.
C'est souvent des entreprises avec un nombre de personnel d'environ combien ?
C'est des entreprises de taille moyenne, en fait, en général. Voilà, petites ou moyennes entreprises.
Et vous pensez que c'est assez récent, justement, cette démarche auprès des employés ou des salariés de trouver une certaine plénitude dans l'équipe ? C'est une recherche qui commence à se ressentir de plus en plus ?
Je pense que oui. En tout cas, ça a été beaucoup... mis en avant de par tout ce qui est autour des risques psychosociaux au travail. Ça dépend un petit peu, je dirais, de l'objectif de l'entreprise. Il y a certaines entreprises qui ont un objectif qui va être plus vraiment ciblé sur la rentabilité. Et donc, l'objectif, ça va être de faire en sorte que les gens partent pas trop en arrêt maladie. Ce qui pour moi n'est pas vraiment mon objectif quand j'interviens dans des entreprises. Pour moi, l'objectif, c'est plutôt de faire en sorte, et il y a beaucoup d'entreprises aussi qui sont de plus en plus sensibilisées à ça, de faire en sorte de créer un cadre de travail qui soit plus propice au bien-être, mais aussi plus propice à l'efficacité en fait, de l'équipe. Donc c'est pour ça que je propose des démarches qui vont permettre aux personnes d'arriver à se comprendre de manière plus précise, et comme vous disiez tout à l'heure, bah, finalement ça prend le même temps, mais on arrive à un résultat beaucoup plus satisfaisant, et des démarches qui vont permettre aux personnes de prendre des décisions en commun qui vont être pareil, beaucoup plus simples à appliquer ensuite. Voilà.
Est-ce que vous avez refusé parfois certaines demandes d'entreprise qui allaient à l'encontre de vos idées?
Non, parce que pour le moment, j'ai pas eu de demande qui allait à l'encontre de mes idées. Donc voilà, j'en ai pas encore refusé, mais peut-être que ce sera le cas, je ne sais pas. Après, c'est assez délicat parce que je vois que en fait, c'est aussi toujours intéressant d'intervenir dans tout type d'entreprise, dans le sens où je pense que ça peut quand même amener des clés aux personnes qui y travaillent et des clés qui leur permettent de se connaître mieux. En fait, et d'arriver à voilà faire des choix qui soient des choix qui permettent d'atteindre voilà leurs objectifs de vie et ce qui leur plaît en fait. Donc je dirais que faudrait vraiment que ça soit à l'opposé en fait de ce que je propose pour que je refuse quelque chose. Voilà.
Je reviens un petit peu sur cette gestion de relations. Est-ce que vous opérez vous-même un suivi au sein de l'association dans le temps et que vous supportez depuis plusieurs années, voire?
Ben, en fait, pour le moment, pas vraiment, parce que j'ai déménagé il y a un an et demi presque maintenant. J'étais à Toulouse, et donc c'est vrai que tout ce que j'avais commencé à mettre en place à Toulouse, notamment dans le suivi, ça s'est un peu arrêté, étant donné que j'ai déménagé. Donc pour le moment, j'ai pas repris d'activité d'accompagnement régulier pour des structures, mais voilà, ça serait avec plaisir de reprendre, parce que c'est vrai que c'est très intéressant de pouvoir suivre une équipe sur un temps assez long en fait, et de voir vraiment quels sont les changements et voir un peu l'impact que ça a dans l'équipe, et souvent c'est super intéressant. En tout cas, je le vois en ce moment dans les cycles d'ateliers que je propose pour les particuliers, où j'ai vraiment des retours en fait des personnes qui me disent que ça a un peu changé pour eux dans leur vie, et c'est vrai que c'est assez joyeux. Et là récemment, j'ai eu la compagne de quelqu'un qui est venu dans beaucoup de mes ateliers, qui m'a dit merci en fait d'avoir amené ça, parce que je vois vraiment je vois vraiment l'impact dans notre famille et dans notre couple, quoi. Donc je trouve que c'est super gratifiant et agréable de savoir que ça a du sens et que ça fait du bien.
Alors, sans préciser exactement où vous habitez, mais vous habitez sur quel territoire
Moi, j'habite à Die.
À Die, d'accord.
Ouais.
Et de là, ça fait donc un an à peu près que vous êtes ici. Comment voyez-vous le territoire? Comment voyez-vous Die, le Diois?
Je vois le Diois comme un lieu foisonnant de... d'intérêt en fait pour justement le développement de chacun, et j'ai vraiment l'impression qu'il y a, alors ça c'est vraiment ma vision quoi, mais qu'il y a des échos par rapport aux objectifs de vie en fait des personnes qui habitent ici. J'ai l'impression qu'il y a vraiment un intérêt pour prendre soin de soi et des relations, et essayer de mettre le relationnel au cœur de notre vie, plutôt que de mettre l'argent, la réussite, le succès, mais que c'est vraiment plus de l'ordre du qualitatif que du quantitatif. En tout cas, c'est ça que je perçois en fait, et qui me plaît beaucoup. Voilà.
Le paysage y fait
Je sais pas, en tout cas j'aime beaucoup, ouais. Je vois que c'est un endroit très agréable. Je vois que quand je rentre chez moi à vélo, à chaque fois, je m'émerveille devant les montagnes autour. Enfin, voilà, c'est clair que c'est... Puis à chaque fois, quand les gens viennent me voir, ils sont émerveillés de voir que c'est un cadre de vie quand même exceptionnel, quoi.
Alors, pour terminer, donc, tous ces stages, formations, est-ce qu'on peut donner globalement une idée du prix pour certains?
Oui, alors c'est assez variable, en fait, le prix. Par exemple, pour un cycle d'ateliers de 8 ateliers de 2h30, je propose une fourchette de prix. Donc, c'est-à-dire que la fourchette, elle est entre 15 et 40 euros par atelier. Donc après, les personnes vont choisir en fonction de leur budget, de leurs possibilités, de leur envie. Donc ça, c'est un format. Ensuite, pour les stages, ça va dépendre un petit peu aussi de la structure ou des frais qu'il peut y avoir. Donc c'est entre 150 et 200 euros par week-end. Voilà, pour 2 jours de formation.
Avec un hébergement compris ?
Non, il n'y a pas d'hébergement compris. Ça, c'est pour les frais pédagogiques. Voilà.
Uniquement ?
Ouais.
Mais il y a possibilité d'hébergement pour, par exemple, le château, enfin, un naturalis, non ?
Je pense que oui. J'en suis pas certaine, mais il me semble que oui, il y a des possibilités d'hébergement là-bas.
Donc nous invitons les auditeurs à aller sur les sites. Hein. Donc on peut préciser, donc Clémence Lataste, c'est votre nom pour Facebook.
Voilà, c'est ma page Facebook, c'est Clémence Lataste Formation. Voilà, donc là vous pouvez retrouver toutes les informations des stages et ateliers dont on a parlé, avec les dates et les détails précis. Donc vous pouvez aussi me contacter par cette page ou bien sur mon mail qui est clemence.lataste@equivalence-creative.com. Je voulais aussi préciser pour les personnes qui auraient envie de s'initier ou de découvrir avant de s'engager sur un cycle d'atelier ou sur une formation, que je propose aussi des ateliers de découverte sur une demi-journée, donc à l'usine vivante à Cré. Donc les prochains, ça va être le 7 octobre et le 11 novembre, donc ce sont des samedis, voilà, et donc il faut réserver sa place auprès de l'usine vivante. Donc en général, les places sont limitées à peu près 10-12 personnes maximum. Et ce sont des ateliers qui sont en participation libre et consciente. Donc les gens, des fois, me demandent un ordre parce qu'ils n'ont pas d'idée de combien donner. C'est entre 15 et 20 euros, voilà, pour une demi-journée d'atelier de découverte. Voilà.
Eh bien Clémence, merci d'être venue parler et présenter cette nouvelle saison. Et puis en espérant vous revoir encore dans les prochains mois. Voilà. Eh bien, bonne soirée à vous.
Ben, merci à vous.
Interview.
Au revoir.
Interview.
Okay. Bye-bye.